Bonne année 2024, bonne santé pour vous, vos amis, vos proches, votre famille.
On vous a préparé un épisode sur un énorme facho. C'est vraiment un super facho. Genre vraiment, si Jean-Marie Le Pen c'est Mario, lui c'est Super Mario. Mais regardez-moi cette tête de facho. Non mais on dirait pas qu'il est facho. Oh le facho, le feu. Bonne année, hein.
On connaît toutes et tous la date du 21 avril 2002. C'est à ce moment-là que l'extrême droite arrive au second tour d'une élection présidentielle.
Et c'était la première fois.
De notre point de vue, pas de problème, ce seront Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Jacques Chirac, 19,8% des voix et Jean-Marie Le Pen, 17,4%.
Alors évidemment, ça a été une onde de choc, un cataclysme, un tremblement de terre ou je sais pas quel autre terme journalistique.
J'ai vu les larmes aux yeux, les nouvelles ce matin, 20% pour l'horreur.
20% pour la peur.
Tous fils de France.
Mais qu'est-ce que tu fais?
Bah c'est Damien Saez.
T'écoutais Damien Saez, toi?
Non.
Alors oui, tout le monde se souvient du 21 avril, mais ce que beaucoup de gens ont oublié, c'est qu'en 2002, il y avait un autre candidat d'extrême droite en lice pour cette élection présidentielle, Bruno Maigret.
Avec Bruno Maigret, restons maîtres chez nous.
Ah oui, effectivement, il est d'extrême droite.
Ouais, il a sorti plusieurs clips de campagne de ce genre, il y en a un autre où il se prend pour Batman.
Avec Bruno Maigret, appliquons la tolérance zéro.
Ce qu'on va essayer de vous expliquer là, mais c'est qui cet autre facho qui essaye de se présenter contre le chef des fachos?
Dans l'épisode des portraits sur Jean-Marie Le Pen, on vous avait expliqué que le FN avait réussi à sa création à unir toutes les chapelles de l'extrême droite, mais on vous avait aussi parlé brièvement de Bruno Maigret, souvenez-vous. Zemmour n'est pas le seul à critiquer la méthode Le Pen. Bruno Maigret, un de ses lieutenants, va même tenter de prendre sa place à la tête du FN avant de partir avec armes et bagages pour fonder le MNR qui se présentera au premier tour de l'élection de 2002. Dans cet épisode, ça nous permettait de revenir sur la méthode Le Pen qui voulait pas vraiment prendre le pouvoir. Mais ça, vous le savez déjà, puisque vous avez déjà regardé l'épisode, puisque vous êtes abonné à la chaîne YouTube de Blast et que vous avez activé la cloche, évidemment.
Aujourd'hui, on va plutôt vous parler de ce putsch qui a abouti à la candidature malheureuse de Maigret en 2002.
Bah oui, parce qu'à la base, Maigret, c'est un poids lourd du Front National.
Ce haut fonctionnaire, fils de haut fonctionnaire, passé par Louis le Grand et Polytechnique, s'engage d'abord au RPR, l'ancêtre des Républicains, avant de le quitter à la fin des années 80. Il devient député en 1986, puis député européen en 1989, avec l'étiquette Front National.
Chez les fachos, il gravit les échelons et devient numéro 2 du Front National en accédant au poste de premier élu au comité central.
Il a les dents qui rayent le parquet, il veut devenir président du parti, voire président de la République. Et ça, ça agace au Front National.
Cette ambition irrite les lepénistes, qui le surnomment méchamment Napoléon ou encore Monsieur Pac-Man, du nom de ce personnage de jeu vidéo gobant tout ce qui se présente sur son passage.
Pour Maigret, qui est déjà critiqué en interne, les choses vont se gâter à partir de 1998.
Et c'est une époque où le parti est déjà en crise, hein, malgré de bons résultats au municipal de 95.
En effet, à ce moment-là, Jean-Marie Le Pen n'est plus éligible en raison d'une décision de justice. Il a violenté une candidate socialiste qui se présentait contre sa fille, Marie-Caroline, aux législatives dans les Yvelines.
On le voit ici au ralenti, hors de lui. Jean-Marie Le Pen plaque contre le mur la candidate socialiste Annette Pelvas-Berjal.
Le vieux Le Pen était dans l'attente de son procès en appel, mais comme il avait déjà été rendu inéligible en première instance, il devait trouver une tête de liste pour les européennes.
Et dans un parti normal, le numéro 2, il aurait eu toutes ses chances d'avoir cette place.
Oui, et puis en plus, Bruno Maigret, il la voulait vraiment cette place.
Sauf qu'on n'est pas dans un parti normal, on est au FN et c'est tout naturellement que Jean-Marie Le Pen va imposer la candidature de sa femme, Jeannie Le Pen.
Eh dis donc Jeannie, tu voudrais pas te présenter aux élections européennes, Jeannie?
Sauf que Jeannie Le Pen, c'est pas une femme politique. Elle défend les animaux et elle donne à manger à des SDF gare Saint-Lazare en disant ce genre de trucs. Tous ces gens, les plus affreux, les plus moches, il me prend de la tendresse pour eux. C'est vrai, c'est un effort, physiquement on a un recul, mais il y a en moi un sentiment de plaisir. Je me sens obligée de le faire. Comme elle dit, elle a un bon petit cœur. Une personne, charmante.
Et évidemment, l'idée de voir la femme du chef candidate, ça va crisper les cadres du Front National.
Ça va particulièrement crisper Bruno Maigret, qui va exprimer son désaccord à Jean-Marie Le Pen.
Ouais, mais c'est pas toi qui décides.
Pour la faire courte, cette question de la candidature de la femme de Jean-Marie Le Pen, ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et ça va aboutir à une scission au sein du Front National en 1998.
On va pas rentrer dans les détails, mais cet épisode de l'histoire du parti est raconté dans ce petit livre de Michaël Darmon et Romain Rosso, Front contre Front.
Il y a un moment sur lequel on peut peut-être s'arrêter, c'est le Conseil national du FN le 5 décembre 1998 à la Maison de la Chimie. C'est ce jour-là où tout a explosé. Explosé, la chimie, vous l'avez ?
Ce Conseil national a tourné au pugilat. Darmon et Rosso racontent que les cris et les engueulades entre les pro-Maigret et les pro-Le Pen étaient audibles par les journalistes qui se trouvaient dans la rue, à l'extérieur du bâtiment où se tenait le congrès.
Et comme ils sont d'extrême droite, ils ont même été jusqu'à se bagarrer entre eux. Stéphane Durbecq et Philippe Adam, deux conseillers régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur, le premier le péniste, le second maigrettiste, manquent d'en venir aux mains. Croyant que Durbecq, enragé depuis la matinée, allait s'en prendre à lui, Adam, ceinture noire de karaté, tombe la veste et se met en garde. Le DPS les sépare tant bien que mal.
Le DPS, c'est le service d'ordre du Front National. C'est parce qu'ils font beaucoup de dommages par seconde qu'ils s'appellent comme ça.
Une chose en entraînant une autre, ces dissensions vont finir par aboutir à une conférence de presse de Bruno Maigret qui actera la rupture.
Le Front National n'appartient à personne. Il appartient aux militants, à tous les militants, quelle que soit leur position dans l'appareil. Cette initiative est donc dirigée contre personne. Elle n'est pas dirigée contre Jean-Marie Le Pen ou contre qui que ce soit.
Quand il dit « ça n'est pas dirigé contre Jean-Marie Le Pen », en fait, c'est dirigé contre Jean-Marie Le Pen, puisqu'il lui reproche précisément de s'accaparer le pouvoir dans le parti.
Ah, c'est compliqué, le langage politique. Hein. Tenez, là, il va dire que c'est ni un putsch, ni une opération séditieuse.
Donc ça veut dire que c'est une opération séditieuse.
Et un putsch.
Il ne s'agit ni d'un putsch, ni d'une opération séditieuse, mais d'une démarche logique, naturelle et légitime, en application stricte des statuts du mouvement.
Le lendemain, Jean-Marie Le Pen va lui répondre avec le plus grand des mépris.
Je n'abandonnerai pas la barre du navire à une poignée de lieutenants et de quartier-maîtres félons.
Avec le recul, on a l'impression que c'est complètement pourri comme move de la part de Maigret.
Déjà, il se fait exclure du FN. Lui, il dit que non, il n'est pas exclu, donc il crée le Front National, Mouvement National. Mais il perd ses procès contre le FN original et donc il doit se renommer Mouvement National Républicain.
Ça fait un peu de la peine.
Ouais, tout ça pour finir par appeler à voter Le Pen au second tour en 2002.
Ça tourne au grotesque.
Ça tourne au grotesque.
J'appelle dès maintenant les électeurs qui se sont rassemblés autour de ma candidature à se mobiliser autour de celle de Le Pen pour le second tour.
Même pour les militants maigrettistes du MNR, c'est la douche froide et on sent encore leur rancœur vis-à-vis du FN.
Maxime Brunéry, 25 ans, étudiant en comptabilité, votera Le Pen, même s'il dénonce les dérives du Front National. Mais il ne fera pas campagne pour le second tour.
Oui, même s'il y a une faute dans son nom, vous l'aurez peut-être reconnu, mais c'est bien le même Maxime Brunéry qui tentera d'assassiner Jacques Chirac 3 mois plus tard. Lui aussi, il était déçu.
Mais l'énorme flop de Maigret avec 2,34% des voix au premier tour, c'était pas une fatalité en fait. Le putsch aurait pu marcher. Qu'importe ce qu'en dit Jean-Marie Le Pen.
Pour me faire une tentative de putsch, il faut être plus nombreux. C'était un poupoutch.
Pourtant, nombreux ils l'étaient, comme le relèvent Darmon et Rosso. Artisan de la modernisation du parti d'extrême droite depuis 1995, Maigret a tiré profit de son patient travail d'implantation chez les cadres. 62 secrétaires départementaux, sur 102, l'ont finalement rejoint, ainsi que 140 conseillers régionaux, sur 275, dont Bruno Racouchot, le directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen.
Il y a du monde, et c'est le cas parce que beaucoup de cadres dénoncent le fonctionnement autocratique du parti d'extrême droite et le fait du prince autour de la personne de Jean-Marie Le Pen.
C'est un problème structurel au FN. Tout est organisé par et pour la famille Le Pen et ses proches, et les autres n'ont pas leur place.
D'ailleurs, 10 ans plus tard, des cadres restés fidèles à Jean-Marie Le Pen se verront écartés de la même manière après avoir refusé l'arrivée aux manettes de Marine Le Pen.
Ouais, comme quoi, rien n'a changé.
Cette scission de 1998, comme l'explique Alexandre Désé dans Parti politique et système partisan en France, elle n'est pas idéologique. Le programme de Maigret est un copier-coller de celui du FN. La rupture avec le parti est bien liée à une lutte pour obtenir des postes politiques importants. C'est du carriérisme.
Non, s'il y a une raison politique à ce divorce, elle tient à une divergence de vue sur des questions stratégiques. C'est ce qu'on vous expliquait dans le portrait sur Jean-Marie Le Pen.
Et ça tombe bien, parce que la stratégie, c'est le cœur du travail de Bruno Maigret.
Bruno Maigret, c'est un cadre, une grosse tête, un cerveau cosmique. On vous l'a dit, il est polytechnicien. Quand il débarque au FN, il amène avec lui tout un clan de ses camarades des grandes écoles qui partagent ses idées. On peut notamment citer les énarques Yves Blot et Jean-Yves Le Gallou qui viennent aussi de la droite républicaine.
Jean-Yves Le Gallou a son bureau de président, celui du groupe Front National au Conseil Régional.
Un parti qu'il a rejoint en 84, délaissant la droite classique qu'il baptise la droite molle. Il a été membre du Parti Républicain. Depuis longtemps, Saint-Énarque professait des idées proches du Front National. Haro sur l'immigration, dans son vocabulaire, il l'assimile à l'invasion. Son combat s'articule autour de ses racines.
Le Galou, Maigret et toute la clique, ils se fréquentent depuis de nombreuses années dans deux groupes d'extrême droite, le Grèce et le Club de l'Horloge.
Le Club de l'Horloge, premièrement, il est évoqué dans ce bouquin. Peuplé d'anciens élèves des grandes écoles, le club est, dans les années 70, un laboratoire d'idées pour la droite autant qu'un vivier des cabinets ministériels et de la haute administration. À côté de ses diverses productions intellectuelles, le club préconise également l'entrisme dans les appareils politiques.
Et deuxièmement, le GRES, le groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne. Le nom fait peur, mais attendez de voir le logo.
On dirait des nazis, hein? Eh ben, c'est un peu l'idée. Bon, eux, ils disent ethno-différentialistes ou nouvelle droite, ça fait plus chic.
Comme le Club de l'Horloge, le GRES est un lieu de production de pensée. Leur but, c'est de faire infuser une culture d'extrême droite dans la société.
Il écrit aussi. Ses ouvrages, La préférence nationale, Être français, cela se mérite, toujours les mêmes thèmes.
Pourquoi écrire? Bah écoutez, moi j'ai quand même écrit d'abord pour des raisons politiques et pour faire passer des idées.
Et faire passer ses idées, faire de l'entrisme, c'est ce que vont vouloir faire Bruno Maigret et ses amis du GRES et du Club de l'Horloge au sein du Front National.
Mais pas seulement, ils vont aussi se mettre à former des cadres, ce qui est une grosse lacune de l'extrême droite.
Pour mener à bien ce projet, Maigret va créer plusieurs instances et noyauter le parti.
En quelques années, les néo-droitiers prennent le contrôle de l'appareil frontiste. Ils lancent la revue théorique frontiste Identité, qui reformule tout le corpus de l'extrême droite autour de ce mot concept. Sont également mis en place un conseil scientifique.
Le conseil scientifique !
Un centre d'études et d'argumentaire sous l'égide de Jean-Yves Le Gallou et un atelier de propagande. Il s'agit d'harmoniser et de normaliser toutes les formes du discours politique. La bataille du vocabulaire demeure essentielle. Bruno Maigret l'affirme sans relâche, les mots sont des armes.
Pour peser, les maigrettistes ont aussi eu recours à des travaux pseudo-universitaires.
On vous donne un exemple, le FN a toujours utilisé l'équation immigration égale chômage. Ce que va faire l'équipe autour de Maigret en 1990, c'est faire publier un texte pour justifier cette politique par Pierre Miloz. Miloz, c'est un autre fonctionnaire d'extrême droite et son rapport intitulé « Rapport Miloz, le coût de l'immigration » est publié aux éditions nationales, la maison d'édition du FN.
L'étude publiée dans le rapport Miloz démontre qu'environ 1 million de chômeurs français pourraient occuper des postes de travail actuellement confiés à des étrangers.
Donc ils produisent de la documentation pour donner une base pseudo-scientifique à un argumentaire raciste et xénophobe.
Maigret n'hésite d'ailleurs pas à sortir des brochures pendant les débats.
J'ai là l'excellente brochure de mon ami Jean-Yves Le Gallou sur le racisme anti-français. J'y vois un fac-similé d'une annonce de l'AFPA, qui est, comme vous le savez, une agence para-étatique.
Nous sommes ici pour débattre et pour informer les téléspectateurs.
Maigret aujourd'hui, bon, il n'est pas mort, mais c'est tout comme.
Oui, après son échec critique de 2002, il a tenté une réconciliation assez pitoyable avec Jean-Marie Le Pen en vue de la campagne de 2007.
Nous allons mener campagne activement dans le cadre de cette union des patriotes pour la victoire de Jean-Marie Le Pen, qui sera surtout la victoire des Français.
La dernière fois qu'on a entendu parler de lui, c'est quand il a apporté son soutien à Éric Zemmour pour la présidentielle de 2022.
Et d'une certaine façon, je me reconnais tout à fait dans l'initiative d'Éric Zemmour, puisque son initiative me fait penser à l'initiative que j'avais prise en 1998.
Mais c'est bien au Front National que Bruno Maigret a laissé l'empreinte la plus profonde, avec tout le boulot idéologique qu'il a accompli avec les cadres qui l'entouraient.
Mais si le Rassemblement National progresse, ce n'est pas, je crois, à cause du discours qu'il tient, c'est à cause du travail que nous avions fait depuis des années et des années, qui ont donné à ce mouvement, à ce courant, une identité extrêmement forte, qui convient aux Français et qu'il faudrait maintenant transformer en un véritable projet politique capable d'aller au pouvoir.
Et dans ce travail idéologique, il y a le travail sur les mots. En l'occurrence, un mot qui sonne aujourd'hui comme une évidence à l'extrême droite.
Ce mot, Maigret l'a prononcé lors du lancement de sa campagne des européennes en 99 à Camembert.
Une France et une Europe enracinées dans son identité, dans ses terroirs, dans ses traditions, face à une Europe mondialiste et technocratique.
Et donc, vous l'avez peut-être entendu, ce mot.
Camembert.
Non, c'est identité. À la base, ce mot est employé par la nouvelle droite pour remplacer le mot race. Mais c'est un courant minoritaire. Identité, c'est un mot qui est aujourd'hui employé couramment à l'extrême droite. On pense aux identitaires, mais il est aussi utilisé à droite. On se souvient du ministère de l'immigration et de l'identité nationale sous Sarkozy. Dans un article sur Slate, le spécialiste de l'extrême droite Nicolas Lebourg explique comment Maigret et son entourage ont mené la bataille culturelle sur ce terme et sur d'autres.
Bruno Maigret peut bientôt se féliciter que, sur le plan des idées, nous avons réussi à imprégner la société, y compris dans son vocabulaire, avec les notions d'identité et d'établissement.
Au municipal de 95, dans un contexte de mouvement social, le FN se rend compte qu'il y a de plus en plus d'ouvriers dans ses électeurs.
Et pourtant, le FN, c'est un parti très libéral à la base. Le social, c'est pas son fort. Et ça va être un des rôles de Bruno Maigret de trouver de nouveaux mots, de nouveaux discours pour séduire cet électorat. Opposé à la fois à la politique gouvernementale, par principe, aux revendications des fonctionnaires et à la pratique de la grève, par conviction, il se trouve tiraillé entre son électorat traditionnel et les 30% d'ouvriers et les 18% d'employés qui viennent de le rejoindre.
Donc il faut aussi des mots pour répondre à la gauche, et Maigret, il en a un.
Dans ses terroirs, dans ses traditions, face à une Europe mondialiste et technocratique.
Donc l'autre mot, c'est...
Camembert.
Toujours pas. C'est mondialisme. C'est une réponse d'extrême droite au terme mondialisation utilisé par la gauche.
Comme identité, c'est un mot qui est encore souvent utilisé par Marine Le Pen aujourd'hui.
Il est mondialiste, prévoit un marché mondial ouvert, il est multilatéraliste, nous y sommes évidemment extrêmement opposés, européistes au possible.
Ah oui tiens, européiste aussi. Alors le mot n'est pas de Maigret et de ses potes, mais le GRECE est à l'origine d'une inflexion de l'extrême droite sur les questions européennes.
Dans l'acronyme GRECE, le dernier E, c'est européenne justement. C'est une extrême droite qui croit en l'Europe des nations, en une civilisation européenne supérieure aux autres.
Et quand je parle de patriotisme européen, n'y a-t-il pas en effet de quoi être fier de notre commune civilisation européenne? N'est-ce pas elle qui a le plus apporté à l'humanité? N'est-ce pas elle qui a façonné le monde? Ne s'est-elle pas illustrée dans tous les domaines qui élève l'esprit humain? Au fond, n'est-ce pas la plus grande et la plus belle des civilisations?
Pourtant, pour toute une partie de l'extrême droite, passer d'un niveau national à un niveau européen, ça peut être énervant. Et ça, Maigret, il le sait.
Moi, ces irritations ne me choquent pas, parce que je partage avec eux certainement la nostalgie de l'époque où la France disputait à la Grande-Bretagne la suprématie sur le monde. Je regrette aussi que notre pays ne soit plus une puissance planétaire, capable de s'imposer, capable de se faire respecter, de décider seul, pour elle et pour les autres. Je le déplore, mais je le sais, ce monde n'existe plus. On peut en avoir le regret, mais on ne peut pas résoudre les problèmes d'aujourd'hui avec la nostalgie des siècles écoulés.
Le Front National va connaître un glissement sur les questions européennes sous l'influence des idées de Maigret et de la Nouvelle Droite. Au départ farouchement anti-européen et militant pour la sortie de l'euro, le RN d'aujourd'hui se contente de s'en prendre à Bruxelles et de réclamer une Europe des nations en s'appuyant sur les autres dirigeants d'extrême droite de l'Union, comme Viktor Orban en Hongrie.
On ne mesure pas bien l'impact idéologique considérable de Bruno Maigret et de son petit groupe de néo-droitos.
On pourrait multiplier les exemples. Tenez, c'est Bruno Maigret qui utilise le premier le mot « réinformation », qui est aujourd'hui très en vogue dans les milieux complotistes.
Être en mesure de produire de la théorie et combiner ça à une stratégie politique forte, c'est ça l'essence du maigrétisme.
D'ailleurs, pour diffuser ses idées, en 1997, il va sortir ce bouquin, La troisième voie pour un nouvel ordre économique et social.
Bon, c'est hyper grandiloquent et très mal écrit.
Le nouvel ordre économique et social n'est donc pas un simple plan de redressement. Il est la condition nécessaire à la renaissance de notre civilisation, car il lui fournira la puissance dont elle a besoin pour s'incarner dans le monde d'aujourd'hui. Porté par un courant civilisateur, cet ordre est l'emblème du renouveau de la grandeur française. C'est naze, mais encore une fois, c'est quelque chose qui a eu un grand impact sur l'extrême droite.
Dans ce livre, Maigret défend une fusion entre libéralisme et protectionnisme. C'est aujourd'hui la ligne du Front National, qui n'était pourtant pas du tout protectionniste sous la présidence de Jean-Marie Le Pen, qui était un grand admirateur de Ronald Reagan.
On dit que vous êtes le Ronald Reagan français. Qu'est-ce que vous en pensez?
Eh bien, écoutez, j'en pense qu'on me fait beaucoup d'honneur.
Maigret a donc eu un impact sur la ligne du Front National, mais son poids politique s'est aussi fait sentir au moment du putsch. L'essentiel des gens qui sont partis avec lui, c'était des gens de son milieu.
Oui, des polytechniciens, des mecs de Sciences Po, de l'ENA, bref, des cadres. Et ça, le RN en manque toujours cruellement aujourd'hui.
C'est Maigret qui a tenu à créer un institut de formation au sein de son parti. C'est lui qui voulait le professionnaliser et le crédibiliser.
Et si le poupoutch a fait long feu, les conséquences structurelles de cette scission pour le parti se font encore ressentir au FN aujourd'hui.
Ouais, comme on l'a dit, ils ont toujours pas de cadre et toujours pour les mêmes raisons.
Tout se passe comme si le petit clan familial autour de Marine Le Pen se gardait toutes les meilleures gâches et ne laissait pas monter de nouveaux profils précisément pour ne pas menacer sa mainmise sur le parti, la vache à lait. Au RN, on préfère avoir une armée de nuls et en faire de la chair à canon plutôt que de construire un parti avec des vrais cadres, un truc stable, quoi.
Elle était bien, cette émission, quand même. C'était fin, ça avait du caractère. Un peu comme le camembert.
ORN, Jordan Bardella, a récemment lancé un institut de formation, le campus Emera, et ce n'est pas un hasard.
Comme l'explique dans Mediapart la chercheuse Perrine Scheer, l'arrivée de Bardella à la tête du Rassemblement National marque le retour dans les sphères du pouvoir frontiste des réseaux de la Nouvelle Droite, et donc de leur idéologie.
Philippe Olivier est revenu au RN en 2016 et il écrit depuis les discours de Marine Le Pen et de Jordan Bardella en y instigant sa vision identitaire influencée par les travaux du GRES.
Et ce retour, il faut s'en inquiéter.
Il faut s'en inquiéter car la méthode Maigret a montré son efficacité. Il a réussi à faire entrer des profils issus des grandes écoles au Front National et est parvenu à mener une bataille culturelle qui a imposé des mots de l'extrême droite dans le débat public.
Peut-être que le putsch de 1998 a simplement ralenti la professionnalisation du FN et sa transformation en une machine de conquête du pouvoir telle que l'imaginait Maigret.
Malgré ses 2% en 2002 et sa faible exposition médiatique, Maigret s'en sort bien. Il se réjouit aujourd'hui de l'évolution du débat public français.
Si vous voulez, moi ce qui me frappe, c'est que la situation s'est tellement dégradée au regard des problèmes liés à l'immigration, que beaucoup de gens commencent à prendre conscience de la réalité des problèmes et commencent à se rendre compte que c'est finalement la survie même de notre nation qui est aujourd'hui menacée. Et on entend maintenant, ici ou là, dans les sphères autrefois politiquement correctes, des interventions qui montrent que la prise de conscience commence à se faire.
Et c'est précisément pour ça qu'il ne faut pas prendre la question des mots et du langage à la légère.
Les mots conditionnent notre manière de voir le monde. Dans la vidéo sur Mitterrand, on vous a parlé du glissement de l'appellation « travailleur » vers celle d'immigré. Et sous Macron alors ? Que penser quand on entend Darmanin parler d'ensauvagement pour décrire la société française ? Que penser quand on entend Macron utiliser le terme de « réarmement démographique » pour défendre une politique nataliste ?
Peut-être qu'ils emploient ces mots par cynisme, par calcul politique et peut-être pas par idéologie. Mais peu importe, en fait.
L'exemple de Bruno Maigret l'a démontré. Théoriser des éléments de langage et les marteler dans des discours, ça a des effets sur le monde réel.
Ouais, comme par exemple mettre le RN à 43% au second tour en 2022, ou leur donner 88 députés aux législatives.
On dit pas que c'est la seule explication de la montée de l'extrême droite, mais c'en est une.
Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut riposter, en imposant nos mots et notre langage, et peut-être, pour une fois, prendre le dessus dans la bataille culturelle. Et si vous voulez encore plus d'épisodes sur des méchants fachos avec des vraies têtes de fachos, n'hésitez pas à faire un don à Blast. En plus, la chaîne YouTube de Blast s'approche des 1 million d'abonnés, on y est presque.